Il n'y a pas de question. Si tu ne fais pas la tienne, il n'y en aura pas.
Ce matin, tu nous as fait jouer une ou deux fois. Tu as pris un de tes livres ou un des livres de Shurvindo et tu as ouvert une page et lu la phrase.
Oui.
Alors, est-ce que ces phrases ont une signification pour l'individu?
Quand je faisais ça,
oui.
Je disais toujours de faire une chose, n'est-ce pas? Tout le monde peut faire ça. Ça consiste en ceci. Vous vous concentrez. Alors, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous avez un problème intérieur et que vous voulez la solution, alors vous vous concentrez sur ce problème. Si vous voulez savoir votre condition que vous ne connaissez pas et que vous voulez avoir une lumière sur l'état dans lequel vous vous trouvez, vous vous présentez comme ça et vous demandez pour la lumière. Ou bien, tout simplement, si vous avez la curiosité de savoir ce que la connaissance invisible a à vous dire, vous restez un moment tranquille et silencieux et vous ouvrez. Je disais toujours de prendre un coupe-papier parce que c'est plus fin de, pendant que vous êtes concentré, vous le mettez dedans et avec la pointe, vous indiquez quelque chose. Alors, si vous savez vous concentrer, c'est-à-dire si vraiment vous le faites avec une aspiration pour avoir une réponse, ça répond toujours. Parce que il y a, dans des livres comme ça, des livres de révélation, il y a toujours une accumulation de force, au moins de force mentale supérieure, et le plus souvent de force spirituelle, de la connaissance la plus haute. Chaque livre, à cause des mots qui y sont, contient et comme un petit accumulateur de ses forces. Les gens ne savent pas parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Mais c'est comme ça. Comme dans chaque image, une photographie, il y a l'accumulation, une petite accumulation représentative de la force de celui dont c'est l'image, de sa nature, et s'il a des pouvoirs, de ses pouvoirs. Alors, vous, quand vous êtes sincère et que vous avez une aspiration, vous émanez une certaine vibration, la vibration de votre aspiration, qui va rencontrer la force correspondante qui est dans le livre. Et c'est une conscience supérieure qui vous donnera la réponse. Tout est contenu potentiellement et il y a toujours une façon de lire et de comprendre ce qu'on lit qui vous donne une réponse à ce que vous voulez. Ce n'est pas un hasard, ni un amusement, ni une sorte de distraction. On peut le faire comme ça et alors il ne vous arrive rien du tout, vous n'avez aucune réponse et ce n'est pas intéressant. Mais si vous le faites sérieusement, si sérieusement quelque chose de votre aspiration essaye de concentrer dans cet instrument, c'est comme une batterie, n'est-ce pas, qui contient des énergies. Essaye d'entrer en rapport avec l'énergie qui est là et insiste pour obtenir la réponse à ce qu'il veut savoir. Eh bien, naturellement, l'énergie qui est là guidera, n'est-ce pas, l'union des deux forces entre émaner de vous et celle qui est contenue dans le livre. Si vous faites la chose sérieusement, il guidera votre main et votre coupe-papier ou n'importe ce que vous avez, guidera juste sur la chose qui exprimera ce que vous devez savoir. Naturellement, si on le fait sans sincérité et sans conviction, il n'arrive rien du tout. Mais si on le fait sincèrement, il y a certains livres qui sont comme ça, qui sont plus puissamment chargés que d'autres. Il y en a d'autres où, naturellement, le résultat est moins clair. Mais généralement, les livres qui contiennent des aphorismes ou de courtes phrases, pas des très longues explications philosophiques, mais plutôt des choses qui sont dites sous une forme condensée et précise. Ces livres-là sont ceux avec lesquels on réussit le mieux. Naturellement, la valeur de la réponse dépendra de la valeur de la force spirituelle qui est contenue dans le livre. Si vous prenez un roman, il ne vous racontera rien du tout que des bêtises. Mais si vous prenez un livre qui contient une condensation de force de connaissance ou de force spirituelle ou de puissance d'instruction, vous recevrez votre réponse. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir? Ça, c'est le mécanisme. Tu veux qu'on le fasse? C'est ça que tu voulais dire? Ou tu voulais seulement demander comment le faire?
Non, mais avant la classe, puisque nous n'avions pas de questions, j'ai ouvert beaucoup de livres et essayé de voir si je trouve quelque chose comme ça. Mais j'ai rien trouvé, alors j'ai pensé que ça serait une question dans la classe.
Oh! Tu n'as rien trouvé parce que probablement tu n'avais pas l'esprit curieux à ce moment-là. Ça, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'explications dans ce livre-là. Alors, si on trompe sur le milieu d'une explication, ce serait plutôt un livre comme Aperçu et pensé, ou bien les prières et méditations, ou bien les comment est-ce qu'on appelle ça? Paroles?
Hein? Quelques paroles.
Quelques paroles, ou bien aussi dans les entretiens.
Nous avons essayé les lettres.
Hein?
Les lettres de Sherwin, troisième série.
Les lettres, généralement, c'est long. C'est là-dedans que tu essayais de trouver quelque chose. Donne-moi. Tu l'as ici?
Non.
Ah, c'est dommage. J'aurais
ça
pu essayer de voir si moi je vous trouve quelque chose. Quelqu'un aura un coup de papier? Ça, c'est un morceau de papier. C'est pas assez solide. Il faut quelque chose qui puisse entrer. Ça, ça va. Ça, c'est bon. J'ai serré là-dedans. Et j'ai serré là-dedans. Donne-moi le livre dans lequel tu as regardé. C'est
troisième, Isma.
Hein?
Troisième.
Troisième, ce n'est pas celui qui concerne la littérature. Alors c'est le plus mauvais de tous.
Non, c'était le deuxième. Ah. Oui, c'était ça.
Alors, je vais tirer d'abord pour la collectivité, c'est-à-dire ce qui va répondre ou exprimer l'état collectif de l'ensemble de tous ici. Je vais voir ce que ça va faire. Mon enfant, c'est en anglais.
Oui,
bon. Mais alors, il faut que je traduise à main levée. Mon carton était sur ceci. Qui me paraît en effet un problème assez général pour tout le monde ici, la vraie attitude dans le travail. Il y a une explication. Et alors l'explication dit ceci. Que la vraie attitude dans le travail se produit quand le travail est toujours associé avec la pensée de la mère, qu'il est fait comme une offrande à elle. Et avec l'aspiration ou le besoin de le faire individuellement. Parce qu'il dit, n'est-ce pas, que le travail soit fait par vous, la personne à qui il écrit. Voilà la phrase que j'ai trouvée. Je crois que c'est pas mal pour un début. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je tire pour lui?
Moi.
Toi. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir l'état dans lequel tu te trouves? Ou tu veux savoir quoi?
Dans lequel je dois me trouver.
Oh. C'est ça le problème qui t'intéresse? La raison de l'avatar. J'ai dit que l'avatar est celui qui vient pour ouvrir le chemin à l'humanité vers une plus haute conscience. Alors, c'est ça, c'est là que j'avais mon papier. Il dit, si personne ne peut suivre le chemin, ou notre conception de cette chose, qui fut aussi la conception du Christ, de Krishna, du Bouddha, est complètement fausse. Ou bien la vie et l'action de l'avatar est tout à fait futile. Je ne sais pas si c'est un problème qui t'a occupé, mais enfin, c'est ça qui est venu en réponse à ça. Tu comprends ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ou la conception que l'avatar a amené dans le monde pour montrer le chemin est une fausse conception, ou bien sa venue est tout à fait futile. Si personne ne suit le chemin. C'était évidemment quelqu'un qui lui demandait, l'avatar vient et ouvre le chemin, et s'il n'y a personne pour le suivre, alors qu'est-ce qui arrive ? Il dit ou bien sa conception était fausse, ou bien sa vie est tout à fait futile. Ça veut dire que si une puissance divine vient sur la terre pour ouvrir le chemin vers une réalisation plus haute, et qu'il se trouve que sur la terre il n'y ait personne pour suivre ce chemin, il est tout à fait évident qu'il était inutile qu'il vienne. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit jamais arrivé. Je peux regarder la fin de la phrase, qu'est-ce qu'il dit à la fin, mais... Oui, c'est en réponse à quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de chemin et pas de possibilité de le suivre. C'était quelqu'un qui n'était pas... C'était quelqu'un qui disait, il n'y a pas de chemin et pas de possibilité de le suivre. Alors, tous les efforts et toutes les souffrances de l'avatar sont irréels et, n'est-ce pas ce fameux mot anglais, humbug. N'est-ce pas, cette personne avait affirmé qu'il n'y a aucune possibilité de conflit ou d'effort pour celui qui représente le divin, c'est-à-dire la négation de la vie de tout cela, n'est-ce pas, dont il est question. Et il ajoute qu'une telle conception est faite... rend stupide toute l'idée de la possibilité de l'avatar. Il n'y a donc dans cette idée de l'avatar aucune raison d'être et aucune nécessité. Ça n'a aucune signification. Il ajoute, le divin étant tout puissant peut soulever les gens sans se donner la peine de descendre sur la terre. Il peut faire ça comme ça, il est tout puissant, il n'a qu'à les tirer en l'air et puis il se soulève. Pourquoi viendrait-il s'ennuyer ici? Et alors il ajoute pour finir, c'est seulement si cela fait partie de l'arrangement mondial qu'ils doivent prendre sur lui-même le fardeau de l'humanité et ouvrir le chemin que, n'est-ce pas, il emploie le mot avatarhood, je ne sais pas comment le traduire. Le fait de l'avatar a une signification. Il touche là un problème très... Ça t'occupait, non? Tu n'as jamais posé cette question à toi-même? Quelle était la raison d'être d'une incarnation divine dans un corps humain? Si c'est nécessaire ou pas? Et comment ça se produit et pourquoi ça se produit et Ça ne t'a jamais intéressé, cette question-là? Non?
Pas comme ça, je...
Pas comme ça. Alors, ça a répondu à quelque chose dont tu n'étais pas consciente. Moi, je sais à quoi ça a répondu. Mais tu n'étais pas consciente. Ah! Quelqu'un d'autre veut quelque chose? Personne? Tu veux quelque chose? Ou ça ne t'intéresse pas? Ah. Bon. Alors nous arrêtons nos tentatives. Personne ne dit mot? Oh, est-ce que vous êtes timides tous? Bon. Il y en a beaucoup qui voudraient savoir, mais ils n'osent même pas le dire. Ah, qu'est-ce que nous allons trouver pour moi, Tunjai? Maintenant, si c'était vous qui tiriez, ce serait peut-être plus amusant. Non, vous ne voulez pas. Moi, je réponds à quelque chose. Voilà, vous voyez, je sais pourquoi c'est venu, mais là, c'est rien. Alors, mais ça va être la même chose. Quoi?
J'ai fait la place pour qu'il vienne tirer une balle.
Oh, yo. N'est pas tellement bon parce qu'il donne des explications. Ce sont des réponses à des lettres de gens qui veulent une connaissance d'érudition. Vous voulez une connaissance d'érudition? C'est ça qu'on a dans cette livre. Dans ce livre. Vous voulez savoir en termes indiens ce que c'est que la mère transcendante? Ça vous intéresse? Pas du tout.
Je peux apporter les entretiens un peu si j'ai pensé ça.
Ça serait plus vivant. Mais attends, ça va nous faire perdre du temps. Je vais essayer avec ceci. Nous allons voir si par hasard nous allons trouver quelque chose. Les gens demandent toujours des questions d'érudition. Alors il n'y a pas de vie là-dedans. Ça se passe seulement dans la tête. Ça répond très bien. La découverte la plus déconcertante que nous fassions est que chaque partie de nous-mêmes, l'intellect, le mental sensoriel, l'être des désirs ou être nerveux, le cœur, a, pour ainsi dire, sa propre individualité complexe et sa formation naturelle indépendante du reste. Ça, c'est tout à fait votre affaire. Voilà. Et alors, il donne le remède, je ne crois pas. Ça continue, n'est-ce pas? Il explique, parce que c'est un livre d'explication. Nous disons que sa propre individualité complexe, et alors il dit, celle-ci ne se trouve en accord ni avec elle-même, ni avec les autres, ni avec l'ego représentatif, qui est l'ombre projetée sur notre ignorance superficielle par le moi central et centralisateur. Tiens, ça c'est tout à fait très bien. L'ego représentatif qui est l'ombre projetée sur notre ignorance superficielle par le soi central et centralisateur. Alors nous trouvons que nous sommes composés non d'une, mais de beaucoup de personnalités et que chacune a ses propres exigences et sa nature distinctive. Notre être est un chaos grossièrement constitué dans lequel il nous faut introduire le principe d'un ordre divin. Voilà qui est fort bien.
Il y avait presque une phrase comme ça, mais je ne l'ai pas
dû au début. Hein?
Il y avait presque une phrase comme ça. Je ne l'ai pas dit encore. Ah, moi, je ne l'ai pas dû au début.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Il y avait presque une phrase comme ça, mais je ne l'ai pas dit au début. Ce sera pour la prochaine fois.
Il y avait une question qui était préparée, mais vous n'avez pas lu, vous êtes arrêté avant. Une question.
Oh, il avait préparé une question pour quelque chose que je n'ai pas lu. Ah, bien. Et alors, quelle est votre question? Vous pouvez toujours la dire.
La connaissance demeurée, l'activité d'un mental libéré, universel et spiritualisé. Mais encore.
Il peut lire pendant 5 minutes, je n'entends rien du tout.
Le mental qui est spiritualisé ne vaut pas grand-chose.
Où est-ce que c'est dit? C'est ici? C'est juste après que je me
Non, mais ce n'est pas la même édition.
Ah, non. Donne-moi, laisse-moi voir. Non. Où est-ce qu'on s'est arrêté? C'est tout. Mental libéré, universalisé, spiritualisé, mais encore comme tout mental doit l'être, comparativement restreint, relatif, imparfait. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir?
Je vois que le mental spiritualisé, en réalité, ça ne va rien du tout.
Ça ne va rien du tout.
Quoi?
Le mental spiritualisé ne va rien du tout.
Ne vaut rien du tout.
Ne vaut rien du tout.
C'est écrit là? Il dit en effet, s'il en était ainsi, je ne sais pas de quoi, quelque chose d'autre, la connaissance demeurerait l'activité d'un mental libéré, universalité spiritualisée, mais encore, comme tout mental doit l'être, comparativement restreint et relatif. Mais il dit, si quelque chose dont il a parlé doit arriver. Non, il dit que c'est... Oui, il paraît que vous n'avez pas compris. Il dit que ce n'est pas comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas ça qui arrive. Parce que si c'était comme ça, ce serait absurde. Alors ce n'est pas comme ça. Il dit après, le mental spiritualisé se surpassera lui-même et sera transmué en un pouvoir supramental de connaissance. Si le mental spiritualisé continue à fonctionner comme le mental ordinaire, ça ne ferait aucune différence, c'est ça que ça veut dire. Mais en fait, c'est justement le contraire de ce qui arrive.
Mais quand c'est spirituel,
il ne faut pas lire juste une phrase et puis... Ne pas lire ce qui est avant et ce qui est après, parce que on peut prouver n'importe quoi comme ça. Besoin de passer qui, quoi? Mais il a dit tout du long que chacun suit son propre chemin, à sa propre manière, qu'il n'y a pas deux chemins pareils, et que chacun, n'est-ce pas, a sa propre voie. Par conséquent, besoin pour qui, pour vous? Je ne sais pas. Passer par quoi? Mettre de l'ordre dans les idées, c'est assez nécessaire pour tout le monde, peut-être. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir.
Dans les étapes de l'expérience qu'il a expliqué.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
Il a expliqué d'abord si c'est la société.
Mais je n'entends pas. Je n'entends pas ce que
vous... Pour arriver au supramental, n'est-ce pas, il dit qu'il y a les étapes. D'abord, le mental, et puis le mental purifié, et puis tout cela. Alors, c'est...
Est-ce qu'il est nécessaire,
nécessaire
de
faire... pour tout le monde.
Il est probable qu'une succession de ce genre se produit toujours. Mais la durée des étapes et leur importance diffèrent considérablement suivant les individus. Et pour certains, le passage peut être suffisamment rapide pour que il soit à peine perceptible, tandis que pour d'autres, cela peut prendre très longtemps et, suivant la nature de la résistance dans chacun, l'insistance sur une de ces étapes ou sur une autre varie énormément. Pour certains, ça peut être si rapide que ça paraît presque instantané, comme si ça n'existe pas. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Il y a évidemment un phénomène qui paraît indispensable si on veut que la réalisation se stabilise. Les expériences arrivent, touchent la conscience, produisent quelquefois de grandes illuminations, puis s'estompent, retournent dans l'arrière-plan et extérieurement, dans votre conscience ordinaire, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un grand changement, une grande différence. Et ce phénomène-là peut se produire très souvent, se répéter, et pendant de nombreuses années. Vous avez tout d'un coup une sorte de révélation, comme une illumination. Vous vous trouvez dans la vraie conscience et vous avez l'impression que vous avez attrapé la vraie chose. Et puis, ou lentement, ou brusquement, c'est comme si ça s'en allait en arrière de vous. Et puis, vous cherchez et vous ne trouvez pas qu'il y a une grande différence en vous. Ces choses-là semblent venir ou comme des annonciatrices ou comme des promesses. ou pour vous dire, vous voyez, ça arrivera, ou pour vous dire, eh bien, ayez confiance, ce sera comme ça. Et ça, ça peut se reproduire très souvent. Il y a progrès, évidemment, mais il est très lent et peu apparent. Mais alors, tout d'un coup, peut-être parce qu'on s'est suffisamment préparé, peut-être simplement parce que le moment est venu, qu'il en a été décrété ainsi. Tout d'un coup, quand une expérience comme ça se produit, il en résulte, dans la partie de l'être où l'expérience a pris place, un complet renversement de conscience. C'est un phénomène très précis, très concret, et qui, la meilleure façon de le décrire, c'est ça, c'est un complet renversement. Et alors, la relation de la conscience avec les autres parties de l'être et avec le monde extérieur est comme complètement changée. Absolument comme un bouleversement. Et alors, ce renversement-là, eh bien, ça ne se remet plus dans l'ancienne place. Une fois que ça a pris place, dans une partie de l'être, cette partie de l'être est stabilisée. Et jusqu'à ce que ça se soit produit, ça va, ça vient, ça va, ça vient, on avance, et puis on a l'impression de piétiner, et puis on avance encore, et puis on piétine, et puis quelquefois on a l'impression qu'on recule, et c'est interminable. Et en effet, c'est interminable. Ça peut durer pendant des années, des années, des années. Mais lorsque ce renversement de conscience se produit, que ce soit dans le mental ou dans une partie du mental, que ce soit dans le vital ou dans une partie du vital, ou même que ce soit dans la conscience physique elle-même et dans la conscience corporelle, une fois que ça s'est établi, c'est fini. Vous ne revenez plus en arrière, vous ne retournez plus à ce que vous étiez avant. Et c'est ça qui est vraiment l'indication que vous avez franchi un pas. Et avant ça, ce sont des préparations. Et ça, n'est-ce pas, ceux qui ont eu ce renversement, ils savent de quoi je parle. Mais si on ne l'a pas eu, on ne peut pas comprendre. On peut avoir une espèce de sens d'analogie. On dit, on a souvent parlé de ça dans les gens qui ont essayé de décrire le yoga et ils ont parlé de ça et ils l'ont comparé au renversement du prisme. Quand vous le mettez d'un certain côté, la lumière est blanche, quand vous le retournez, elle est décomposée. Eh bien, c'est absolument ça qui se produit. C'est-à-dire que vous rétablissez le blanc, que dans la conscience ordinaire, c'est la décomposition, et que vous rétablissez le blanc. Eh bien, seulement, ce n'est qu'une image. Ce n'est pas ça. Mais c'est une analogie. Mais le phénomène est extrêmement concret. C'est presque comme si vous mettiez ce qui est dedans dehors et ce qui est dehors dedans. C'est pas ça non plus. Mais si vous pouviez retourner une boule, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Mais si un ballon, si vous pouviez mettre le dedans dehors et le dehors dedans, ça ressemblerait à ça. C'est généralement, quand au premier contact avec l'être psychique, ça se produit. Mais c'est seulement partiel. C'est seulement la partie de la conscience ou de l'activité qu'elle appartienne à une partie quelconque de l'être. La partie de la conscience qui s'est unie au psychique, c'est celle-là qui a l'expérience. Et alors, au moment de cette expérience-là, c'est que la position de cette partie de la conscience vis-à-vis, comme je dis, des autres parties et du monde est complètement renversée. Elle est différente. Et ça ne se défait plus. Et si vous avez la volonté ou le soin ou la capacité de mettre en contact avec cette partie tous les problèmes de votre existence et toutes les activités de votre être, tous vos éléments de conscience, alors il commence à s'organiser de telle façon que votre être devient une unité, une multiplicité unique, n'est-ce pas? Une unité multiple, complexe, mais organisée et centralisée autour d'un point fixe, de telle façon que la volonté centrale ou la conscience centrale ou la vérité centrale a le pouvoir de gouverner toutes les parties parce qu'elles sont toutes en ordre organisées autour de cette présence centrale. Il me semble impossible d'échapper à cette nécessité si on veut et doit être un instrument conscient de la force divine. Vous pouvez être mis en mouvement, poussé vers l'action et utilisé comme des instruments inconscients par la force divine, si vous avez un minimum de bonne volonté et de sincérité. Mais pour devenir un instrument conscient capable d'identification et de mouvement conscient volontaire, il faut que vous ayez cette organisation intérieure. Autrement, vous serez toujours à rencontrer un chaos quelque part, une confusion quelque part, ou une obscurité, une inconscience quelque part. Et naturellement, votre action même, exclusivement guidée par le divin, n'aura pas la perfection d'expression qu'elle a dans le cas de l'organisation consciente autour de ce centre divin. Ça, c'est un travail assidu qui peut être fait à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Parce que vous portez en vous-même tous les éléments du problème. Vous n'avez besoin de rien d'extérieur, d'aucune aide extérieure pour faire ce travail-là. Mais ça demande une grande persévérance, une sorte de ténacité. Parce que il arrive très souvent qu'il y a des mauvais plis dans l'être, des habitudes qui viennent de toutes sortes de raisons, qui peuvent venir de la formation atavique, mais qui peuvent venir de l'éducation aussi, qui peuvent venir du milieu dans lequel vous avez vécu, peuvent venir de beaucoup de raisons. Et ces mauvais plis-là, vous essayez de les aplatir, mais ils se referment. Et alors, il faut recommencer le travail souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, sans se décourager, avant que le résultat final soit obtenu. Mais rien ni personne ne peut vous empêcher de le faire, ni aucune circonstance, parce que vous portez avec, en vous-même le problème et la solution. Et pour dire la vérité, le mal le plus général dont l'humanité souffre, c'est l'ennui. La majorité des bêtises que l'humanité fait sont pour essayer d'échapper à l'ennui. Eh bien, moi j'affirme que tous les moyens extérieurs ne sont pas bons, et que l'ennui vous poursuit et vous poursuivra, quoi que ce soit que vous essayiez pour y échapper, mais que ce moyen-là, c'est-à-dire de commencer ce travail d'organisation de votre être et de tous ces mouvements et de tous ces éléments autour de la conscience et de la présence centrale, ça, c'est la guérison la plus sûre et la plus totale et la plus consonante de tout ennui possible. Ça donne à la vie un intérêt formidable et une diversité inouïe. Vous n'avez plus le temps de vous ennuyer. Souvent, il faut être persévérant. Et ce qui ajoute à l'intérêt de l'affaire, c'est que ce genre de travail dont je vous parle, cette harmonisation et cette organisation de l'être autour du centre divin ne peut se faire que dans un corps physique et sur la terre. Que c'est vraiment la raison essentielle et primordiale de la vie physique. Parce que dès que vous n'êtes plus dans un corps physique, vous ne pouvez plus le faire du tout. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est seulement les êtres humains qui peuvent le faire. Parce que c'est seulement les êtres humains qui ont au centre d'eux-mêmes une présence divine dans l'être psychique. Par exemple, ce travail de développement de soi et d'organisation et de prise de conscience de tous les éléments, ce n'est pas à la portée des êtres du vital, ni du mental, ni des êtres que l'on appelle d'habitude les dieux. Et quand ils veulent faire ça, quand ils veulent vraiment s'organiser et devenir complètement conscients, ils sont obligés de prendre un corps. Et alors, tous les êtres humains y viennent dans un corps sans savoir pourquoi. La majorité d'eux traversent toute la vie sans savoir pourquoi et quittent leur corps sans savoir pourquoi. Et il faut qu'ils recommencent indéfiniment la même chose pour qu'un jour il se trouve quelqu'un pour leur dire « Attention, vous savez, ça a une raison d'être. Vous êtes ici pour ce travail-là, ne perdez pas votre occasion. » Et combien d'années on gaspille? Je crois qu'on peut arrêter. On a assez gaspillé de tape comme ça. Voilà.